succès du parti d'extrême droite Reform UK. En Angleterre, les résultats quasi définitifs donnent Reform largement en tête, avec 1426 sièges conquis contre 954 pour le Labour.
Radio G. www.radio-g.fr.
À court d'idées de lecture, envie de découvrir de nouveaux genres, ou juste à la recherche d'un premier pas dans le monde des livres, Voix au chapitre, c'est ta dose hebdomadaire de découverte littéraire. Un livre, un extrait, deux émissions. Juste ce qu'il faut pour réveiller la curiosité et l'envie de tourner les pages. Présenté par Manuela, tous les samedis, à 9h10, au 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission et 18e découverte littéraire. Les deux semaines précédentes, nous avions découvert le roman « D'or et d'oreiller » de Flore Vesco, une revisite du conte « La princesse au petit pois ». Vous pouvez retrouver les deux émissions sur le site de Radio G, rubrique « Voix au chapitre ». Pour cette nouvelle découverte, nous allons lire, sur ces deux semaines, deux extraits du roman « La vie invisible » d'Adi Larue, écrit par V.E. Schwab. Je vais vous laisser découvrir par vous-même le thème de ce roman de type fantastique. On se retrouve après cet extrait. Bonne écoute sur Radio G. Le jour éclate comme un jaune d'œuf pour répandre sur le pré sa lumière dorée. Adeline, qui n'a pas fermé l'œil de la nuit, se glisse hors de la maison avant l'aube et se faufile dans les herbes folles derrière le potager. Ses jupons s'imprègnent de rosée. Elle se laisse entraîner par leur poids, son crayon préféré serré dans une main. S'en défaire est la dernière chose qu'Adeline souhaite. Mais le temps lui est compté, et elle n'a presque plus rien à donner. Elle enfonce donc la pointe du crayon dans la terre humide du pré. « Aidez-moi, » chuchote-t-elle au brin d'herbe nimbé de lumière. « Je sais que vous êtes là et que vous écoutez, je vous en prie, je vous en prie. » Mais l'herbe n'est que de l'herbe et le vent n'est que du vent. Ils ne répondent ni l'un ni l'autre, pas même quand elle appuie son front sur le sol et éclate en sanglots. Roger n'est pas un mauvais bougre, c'est juste qu'il n'a pas grand-chose pour lui. Il a le teint cireux, des cheveux blonds clairsemés et une voix aussi fluette qu'un filet d'air. Quand il pose la main sur son bras, elle en sent à peine le poids. Quand il incline la tête vers elle, elle respire son haleine fétide. Et Adeline, alors? C'est un légume laissé trop longtemps dans le potager. Sa peau est devenue épaisse, sa chair ligneuse. Elle a fait de son mieux pour rester cachée, mais on l'a déterrée pour en faire un repas. « Je ne veux pas l'épouser, » proteste-t-elle, les doigts entortillés dans l'herbe. « Adeline !» s'écrie sa mère, comme si elle était une brebis égarée. Vide de colère et de chagrin, l'intéressée se redresse. À son retour, sa mère ne voit que ses mains pleines de terre. Elle ordonne à sa fille d'aller se nettoyer. Adeline gratte la crasse sous ses ongles. Les poils de la brosse lui écorchent les doigts, tandis qu'on lui passe un sermon. « Que va penser ton mari ?»« Mari, un mot comme un fardeau. » Un boulet qui lui glace la peau. « Avec des enfants, tu seras bien obligée de t'assagir », ajoute sa mère, d'un ton agacé. Adeline repense à Isabelle, à ses deux garçons accrochés à ses jupes et son troisième enfant installé dans un couffin devant l'âtre. Avant, elles rêvassaient ensemble, mais son amie semble avoir pris 10 ans en l'espace de 24 mois. Elle est toujours fatiguée et ses joues, autrefois rouges à force de rire, sont aujourd'hui creusées. « Ça va te faire du bien », conclut sa mère, « d'être la femme de quelqu'un ». La journée s'écoule comme une condamnation à perpétuité, et voilà que le soleil plonge derrière les collines telle une faux. Adeline croit discerner le sifflement de la lame, tandis que les doigts maternels lui tressent les cheveux, en couronne, avant d'y glisser des fleurs en guise de bijoux. Sa robe, simple et légère, lui semble une côte de maille tant elle lui pèse. Elle voudrait hurler, au lieu de quoi elle se contente d'agripper l'anneau de bois à son cou, comme pour éviter de tomber. « Il faudra que tu l'enlèves avant la cérémonie », prévient sa mère. Adeline lui fait signe qu'elle a compris, tout en serrant ses doigts autour de la bague. Son père, lui, revient de la grange, couvert de copeaux de bois et imprégné d'une odeur de sève. Quand il tousse, un bruit de crécelle jaillit de sa poitrine comme des graines. Voilà un an qu'il en souffre, mais il refuse d'en discuter avec sa femme et sa fille. « Tu es prête ?» demande-t-il. « Quelle question !» Sa mère parle du dîner de mariage comme s'il avait déjà eu lieu. Adeline lui prête une oreille distraite. Elle observe le coucher du soleil par la fenêtre. Elle perçoit dans les paroles maternelles une note d'espoir et de revanche. Même dans les yeux de son père, elle lit un léger soulagement. Leur fille a essayé de tracer sa propre route, mais ses parents ont repris la main. Ils l'ont remise dans le droit chemin. Il fait trop chaud dans la maison. L'air paraît lourd. Adeline n'arrive plus à respirer. La cloche de l'église sonne enfin, tel le glas. La future mariée se contraint à se lever. Son père lui prend le bras. Malgré son air désolé, sa poigne est ferme. « Tu finiras par aimer ton mari », déclare-t-il. Mais ses paroles résonnent comme un souhait plutôt qu'une promesse. « Tu feras une bonne épouse », ajoute sa mère. Et les siennes sont plus un ordre qu'un souhait. Estelle apparaît sur le seuil, en tenue de deuil. Et pourquoi pas ? Cette femme lui a parlé de rêves fous et de dieux capricieux, lui a donné soif de liberté et a soufflé sur les braises de l'espoir en lui laissant croire qu'il était possible de choisir sa vie. Derrière la grisonnante Estelle, la lumière blêmit comme une aquarelle. « J'ai encore le temps », se dit Adeline, mais il s'enfuit à chacun de ses soupirs. Le temps, combien de fois l'a-t-elle entendu décrire comme un sablier qui s'écoule grain après grain ? Mensonge. Elle le sent qui s'accélère et fond sur elle. La panique fait battre le sang à ses tempes. Dehors, le sentier dessine une ligne sombre, droite et étroite, jusqu'à la place du village. À son extrémité, l'attend l'église pâle et rigide comme une pierre tombale. Une fois entrée, jamais Adeline n'en ressortira. Elle le sait. Son avenir filera à la même allure que son passé, sauf qu'elle ne connaîtra cette fois aucune liberté. Juste un lit conjugal, puis un lit de mort, peut-être un lit de bébé entre les deux. Elle mourra avec la sensation de n'avoir jamais vécu. Adieu Paris, adieu son amant aux yeux verts. Adieu les longs voyages en bateau vers de lointaines contrées. Adieu ciel étranger. Adieu la vie loin de Villon. Adieu la vie tout court. Sauf si... Adeline se libère de la poigne de son père et s'arrête sur le sentier. Sa mère se retourne vers elle comme si sa fille s'apprêtait à s'enfuir. Exactement ce qu'elle souhaite faire, même si c'est impossible. « J'ai préparé un cadeau pour mon mari », déclare la future mariée, l'esprit en ébullition. « Mais je l'ai laissé à la maison. » Sa mère se radoucit. Son père, méfiant, se raidit. Estelle plisse les yeux. Elle a compris. « Je vais le chercher. » Adeline fait déjà demi-tour. « Je t'accompagne », décide son père. Le cœur d'Adeline s'arrête de battre et ses doigts se contractent. Mais Estelle vient à sa rescousse. « Allons, Jean », commence-t-elle sournoise. « Adeline ne peut pas être à la fois une fille et une épouse. C'est une adulte maintenant, plus une enfant à surveiller. » Il croise le regard de sa fille avant de lancer. « Dépêche-toi. » Adeline a déjà pris la fuite. Elle remonte le sentier, franchit la porte et traverse la maison jusqu'à la fenêtre ouverte de l'autre côté qui donne sur le pré et la rangée d'arbres à l'horizon. Le bois se dresse en sentinelle à l'est du village face au soleil. Déjà plongée dans l'ombre, même si elle sait qu'il reste encore de la lumière et donc du temps. « Adeline ?» crie son père, mais elle ne se retourne pas. Elle grimpe par la fenêtre dont le cadre déchire sa robe de mariée lorsqu'elle retombe sur ses pieds. Puis elle se met à courir. « Adeline ?» Adeline ! Les voiles l'appellent, mais faiblissent à chaque pas. En à peine quelques enjambées, la mariée en fuite a traversé le pré pour pénétrer dans le bois, où elle s'effondre à genoux dans la terre desséchée. Elle serre la bague de bois entre ses doigts et en ressent la perte avant même d'avoir ôté de son cou le cordon de cuir. C'est le dernier objet qu'Adeline souhaite sacrifier, mais elle n'a rien d'autre à offrir. Elle a enfoui dans la terre tous ses biens et aucun dieu n'a répondu. C'est tout ce qui lui reste. La lumière s'estompe, tout le village l'appelle et elle est prête à tout pour s'échapper. « S'il vous plaît !» chuchote-t-elle d'une voix brisée en plongeant l'anneau sous la mousse. « Je ferai tout ce que vous voudrez. » Les arbres s'arrêtent de bruisser, comme s'ils attendaient, eux aussi. Adeline prie, supplie les dieux de la forêt, invoque toutes les divinités. Sa vie ne peut pas se résumer à ça, le monde ne peut pas se résumer à ça. « Répondez-moi !» implore-t-elle. L'humidité imprègne sa robe de mariée. Les yeux fermés, elle tend l'oreille, mais elle ne perçoit rien d'autre que sa propre voix, portée par le vent, et son nom, qui résonne en elle comme des battements de cœur. Adeline, Adeline, Adeline. Le front collé au sol, elle s'agrippe à cette terre ténébreuse et hurle. « Répondez-moi !» Rien que le silence. Elle a vécu ici toute sa vie et n'a jamais entendu pareil calme dans la forêt. Le froid l'enveloppe et elle ne sait pas s'il vient du bois ou de son propre corps, qui se vide de ses dernières forces. Le soleil a plongé derrière le village et le crépuscule a cédé la place à la nuit. Mais Adeline ne l'a pas remarqué. Les yeux clos, elle continue de prier. Chapitre 9. Villon-sur-Sartre, 29 juillet 1714. Adeline entend un grondement sourd, grave et lointain, comme un roulement de tonnerre. Un rire, pense-t-elle, avant d'ouvrir les yeux et de constater pour la première fois que la nuit est tombée. Elle lève la tête mais ne voit rien. Il y a quelqu'un ? Derrière elle, le rire se transforme en voix. Inutile de t'agenouiller, redresse-toi. Elle se relève en hâte, puis se retourne, mais seules les ténèbres l'entourent. Une nuit sans lune après la fuite du soleil d'été. Adeline comprend alors qu'elle a commis une grave erreur. Lui a répondu un des dieux contre lesquels Estelle l'avait mise en garde. Vous écoutez toujours Voix au chapitre sur Radio G, au 101.5 FM ou sur radio-g.fr, où je vous plonge aujourd'hui dans le roman « La vie invisible d'Adi Larue » de V.E. Schwab. Bonne écoute ! Adeline ! Adeline ! Continuent de crier les voix des villageois, de plus en plus faibles, emportées par le vent. Elle a beau scruter les ombres entre les arbres, elle ne distingue aucune silhouette, aucun dieu, juste cette voix comme un souffle sur sa joue. « Adeline ! Adeline ! » répète celle-ci, moqueuse. « Il t'appelle ! » Elle se retourne à nouveau et son regard ne trouve rien d'autre qu'une ombre impénétrable. « Montrez-vous ! » ordonne-t-elle d'une voix aussi nette et cassante qu'une brindille. Quelque chose lui frôle l'épaule, lui effleure le poignet, avant de se lever autour d'elle comme un amant. « Qui êtes-vous ? » demande Adeline, la gorge serrée. À ces mots, l'ombre s'écarte. « Qui suis-je ? » réplique la voix de velours teintée d'un soupçon d'humour. « Tout dépend de ce en quoi tu crois. » La voix se divise, se dédouble, crépite entre les branches des arbres et serpente sur la mousse, se repliant sur elle-même jusqu'à se disséminer partout. « Alors dis-moi, 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 » entonne-t-elle. « Suis-je le diable ? Diable, diable. Ou les ténèbres ? Ténèbres, ténèbres. Suis-je un monstre ? Monstre, monstre. Ou un dieu ? Dieu, dieu. » Les ombres dans les bois commencent à se rassembler comme des nuages partant d'orage. Lorsqu'elles finissent par s'immobiliser, leurs contours ne sont plus des volutes de fumée, mais des lignes nettes. La silhouette d'un homme, renforcée par la lumière des lanternes du village dans son dos. Ou bien suis-je ceci ? La voix sort d'une bouche aux lèvres parfaites. L'ombre ouvre des yeux émeraudes qui dansent sous ses sourcils noirs. Ses cheveux d'ébène bouclent sur son front et encadre un visage qu'Adeline ne connaît que trop bien. Un visage qu'elle a fait apparaître un millier de fois au crayon, au fusain et dans ses rêves. C'est l'inconnu, son inconnu à elle. Elle sait que c'est une ruse, une ombre qui se fait passer pour un homme. Malgré tout, elle en a le souffle coupé. Le ténébreux baisse les yeux sur son propre corps, comme s'il le découvrait pour la première fois. Il semble apprécier. « Ah, tu crois en quelque chose, finalement ?»« Eh bien... » ajoute-t-il en plantant son regard dans les yeux de celle qui l'a convoqué. « Tu as appelé et je suis venu ?» Ne prie jamais, au grand jamais, les dieux qui répondent à la nuit tombée. Adeline le sait, Estelle le lui avait assez martelé, mais c'est le seul qui lui a répondu, le seul disposé à l'aider. « Es-tu prête à payer ?» Payer, le prix, la bague ? Adeline s'agenouille pour fouiller le sol jusqu'à trouver le cordon de cuir, puis elle déterre le bijou de son père. Elle le tend au dieu. Son bois clair souillé de terre et il s'approche. Malgré son allure humaine, il se déplace comme une ombre. Un seul pas et le voilà qui s'impose à elle. Une main refermée sur la bague, l'autre posée sur la joue d'Adeline. Il caresse de son pouce la tache de rousseur sous son œil, première étoile de sa constellation. « Je ne fais pas commerce des breloques, ma chère », déclare le ténébreux en s'emparant du bijou. L'anneau de bois s'effrite dans sa main avant de disparaître, réduit en fumée. Adeline pousse un petit cri étranglé. S'il était déjà difficile de se séparer de la bague, il est encore plus douloureux de l'avoir effacée du monde, comme une tache de charbon sous les ongles. Si cette offrande ne suffit pas, que lui faut-il ? « Je vous en prie, je donnerai n'importe quoi !» De la main qui repose toujours sur sa joue, l'ombre lui soulève le menton. « Tu imagines que je me satisfais de n'importe quelle babiole, mais je n'accepte qu'une seule monnaie ?» ajoute le dieu avant de se rapprocher. Ses yeux verts aussi brillants que des diamants, sa voix douce comme de la soie. « Moi, je fais commerce des âmes ?» Le cœur d'Adeline se met à battre plus fort dans sa poitrine. Elle imagine sa mère agenouillée à l'église, parler de Dieu et du paradis. Elle entend son père raconter des histoires de génie et de souhait, de sphinx et d'énigmes. Elle pense aussi à Estelle, qui ne croit qu'à un arbre pour abriter ses os, et prétendrait que l'âme n'est qu'une graine rendue à la terre. Pourtant, c'est elle qui l'a mise en garde contre les ténèbres. « Madeline, souffle Dieu, le nom glissant comme de la mousse entre ses dents. Maintenant que je suis là, dis-moi pourquoi. » Elle a attendu si longtemps qu'on vienne à sa rencontre, qu'on lui réponde, qu'on lui pose cette question. Qu'au début, elle ne trouve pas les mots. « Je ne veux pas me marier. » Elle se sent ridicule en prononçant cette phrase. Sa vie entière lui paraît ridicule. Elle voit dans le regard du Dieu qu'il partage cette impression, comme s'il lui demandait « C'est tout ?»« Non, ce n'est pas tout, bien sûr que non. » « Je ne veux appartenir à personne », poursuit-elle avec plus d'assurance, cette fois. Ses mots ont ouvert les vannes. La suite se déverse à grands flots. « Je ne veux appartenir qu'à moi et à moi seule. Je veux être libre, libre de vivre et de trouver ma propre voie, d'aimer ou de ne pas me marier, mais au moins ce sera mon choix. J'en ai plus qu'assez de ne pas avoir voix au chapitre. J'ai tellement peur des années qui filent sous mes doigts. Je ne veux pas mourir comme j'ai vécu. Ce n'est pas une vie, je ne... » Le ténébreux l'interrompt. « À quoi bon me dire ce que tu ne veux pas, ma chère ?» s'impatiente-t-il. Il glisse la main dans les cheveux d'Adeline jusqu'à sa nuque pour l'attirer à lui. « Dis-moi plutôt, quel est ton souhait le plus cher ?»« Je veux tenter ma chance, » répond-elle en croisant son regard. « Je veux être libre !» Elle pense aux années qui défilent. En un clin d'œil, la moitié de votre vie s'est écoulée. « Je veux plus de temps !» Le dieu la contemple, de ses yeux qui passent du vert printemps au vert profond d'une feuille d'été. « Combien ?» Le cerveau d'Adeline entre en ébullition. 50 ans, 100 ans, rien ne lui paraît trop long. Face à son silence, les yeux verts s'assombrissent à nouveau. « Ah, tu ne sais pas, » constate-t-il. « Tu demandes un temps illimité, une liberté absolue. Tu veux être détaché de tout, vivre exactement comme tu l'entends ?»« Oui, » répond-elle, le souffle coupé par l'excitation. Mais le regard du ténébreux se charge d'amertume. Il ôte sa main de la nuque d'Adeline et s'évapore pour apparaître à plusieurs mètres de distance, appuyé nonchalamment contre un arbre. « Je refuse. » Adeline recule comme si on l'avait giflée. « Quoi ?» Au point où elle en est, après avoir offert tout ce qu'elle possédait, elle a pris sa décision. Impossible de retourner dans ce monde, à cette vie, ce passé et ce présent sans avenir. « Vous n'avez pas le droit de refuser !» Il hausse un sourcil noir sans pour autant trahir le moindre amusement. « Je ne suis pas un génie soumis à tes caprices !» déclare l'ombre en se décollant de l'arbre. « Je ne suis pas non plus un vulgaire esprit de la forêt ravi d'accorder ses faveurs en échange de babioles. Je suis plus fort que ton dieu et plus vieux que ton diable. Je suis la nuit privée d'étoiles, les racines sous la terre. Je suis à la fois promesse et potentiel. Quand il s'agit de jouer, c'est moi qui dicte les règles. Choisis les pions et décide quand commencer la partie. Et ce soir, je dis non. Adeline ! Adeline ! Adeline ! À l'orée du bois, les lumières emportées par les villageois se rapprochent. Des torches brillent dans le pré. Ils viennent la chercher. L'ombre regarde par-dessus son épaule, puis poursuit. « Rentre chez toi, Adeline. Retourne à ta petite vie ridicule. Pourquoi ?» supplie-t-elle en lui attrapant le bras. « Pourquoi refusez-vous ma prière ?» Il lui caresse la joue d'une main chaude et douce. « Je ne fais pas dans la charité. Tu m'en demandes trop. Combien d'années avant que tu ne sois comblée ? Combien avant que tu ne paies le prix ?» Non, les pactes que je conclus ont un terme, or le tien n'en a pas. Plus tard, elle ne cessera de repenser à cet instant, dans un mélange de frustration, de regret, de chagrin, de pitié et de colère infinie. En vérité, elle s'est maudite elle-même avant qu'il ne s'en charge. Mais ici et maintenant, tout ce qu'elle voit, c'est la lumière vacillante des torches de Villon, les yeux verts de l'inconnu qu'elle rêvait autrefois d'aimer, et l'occasion de s'enfuir qui lui échappe en même temps que lui. « Vous exigez un terme, alors prenez ma vie quand j'en aurai terminé avec elle. Vous pourrez avoir mon âme quand je n'en voudrai plus. » Tout à coup, intriguée, l'ombre incline la tête sur le côté, pensive. Puis un sourire, comme celui sur les dessins d'Adeline, mystérieux et moqueur, se grave sur ses lèvres. « C'est fait, » chuchote le dieu. Alors le monde devient noir et Adeline s'effondre. Dans ce premier extrait, on découvre le personnage d'Adi, promise à un mariage qui ne l'intéresse pas et qui cherche de l'aide auprès d'espèces de divinités. Cependant, c'est la mauvaise personne qui lui a répondu, et elle va le regretter à l'avenir. Mais vous en découvrirez plus la semaine prochaine. Nous étions donc sur le roman « La vie invisible d'Adi Larue », écrite par V. E. Schwab. Vous pourrez toujours réécouter cette émission sur le site de Radio G, rubrique « Voix au chapitre ». En attendant, restez connectés sur Radio G pour l'émission Samedi Souvenir de 10h à midi. Il est temps de tourner la page pour aujourd'hui. Bon week-end!
Radio G, www.radio-g.fr.